Tout à l'heure, j'ai fait un lapsus. Nous ne sommes pas le 4 était hier. Hein? Nous sommes donc le 5, mais vous avez compris, le vendredi, le samedi, le dimanche, eh ben, c'est la puissance de la Pentecôte, on y demeure. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes donc le dimanche de Pentecôte, et c'est pour nous une occasion de nous tourner vers le Seigneur et de le laisser nous instruire, le laisser nous enseigner, le laisser nous révéler quelques pensées en rapport avec la Pentecôte. Et quand on parle de la Pentecôte, eh bien, forcément, on se tourne vers le Saint-Esprit, forcément, on parle du feu de la Pentecôte. Alléluia. Notre thème de ce dimanche matin, en ce dimanche de Pentecôte, est l'indispensable Saint-Esprit et son feu. L'incontournable Saint-Esprit, ainsi que son feu. Nous allons lire le passage que nous avons déjà lu le vendredi, à savoir Actes chapitre 1 à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Et puis ensuite, nous lirons le chapitre 2, les 4 premiers versets. Nous lisons comme il se trouvait avec eux, c'est-à-dire les questions du Seigneur. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. 10 jours plus tard, nous sommes au jour de la Pentecôte, chapitre 2, verset 1er. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Gloire au Seigneur. Il avait promis, et 10 jours plus tard, il a réalisé sa promesse. Et oui, ça c'est notre Dieu. Ça c'est le Seigneur que nous servons. Il se révèle à travers sa parole comme étant le fidèle et le véritable, comme le seul qui a le pouvoir de transformer sa parole en réalité palpable et tangible. Avant de quitter cette terre, de retourner auprès du Père, avant de quitter l'espace et le temps pour entrer dans l'éternité, le Seigneur a laissé sa dernière volonté, comme nous l'avons vu le vendredi dernier. Il a exprimé sa dernière volonté, ses toutes dernières paroles, qui revêtent donc, frères et sœurs, une importance capitale. Car nous savons tous l'importance d'un testament laissé par quelqu'un qui est mort, par un défunt. Ce testament, avec tout ce qu'il contient, et dans la plupart des cas, dans les pays où tout cela est bien encadré, eh bien, ce testament est donc respecté stricto sensu. C'est-à-dire, on doit appliquer, on doit tout faire pour que la volonté, la dernière volonté du défunt, puisse être respectée. À combien plus forte raison, frères et sœurs, cette parole que le Seigneur nous a laissée, cette promesse, quand il dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, ne vous précipitez pas d'aller à gauche à droite pour assumer la mission, pour accomplir la mission que je vous ai donnée, c'est-à-dire d'aller dans le monde entier de prêcher cette bonne nouvelle. Il leur dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père soit accomplie. Et par obéissance à cette parole, ils sont restés et n'ont pas comme ça chacun dans son coin, pas du tout. Ils ont pris cette parole avec beaucoup de sérieux. Ils ont pris cette parole, mes amis, avec passion, avec amour, avec foi. Ils se sont retirés et là ils se sont mis à prier avec une attente, une expectative vivante par rapport à cette promesse. Et au dixième jour, eh bien cela s'est réalisé. Mes amis, nous sommes le dimanche de Pentecôte, nous sommes le 5 juin 2022, et pour nous, ce dimanche est un peu particulier. Certes, comme tous les dimanches, quand nous répondons à l'invitation du Seigneur de venir dans ta maison, eh bien, nous venons pour le louer, pour l'adorer, nous venons pour lui exprimer nos sentiments, pour déposer nos fardeaux à ses pieds, pour implorer sa grâce d'une manière ou d'une autre. Mais ce dimanche d'aujourd'hui doit être considéré par chacun de nous comme aussi une occasion de dire merci au Seigneur d'avoir pensé à nous et d'avoir honoré sa parole, c'est-à-dire en nous envoyant le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devrions et nous devons être remplis de reconnaissance, de profonde gratitude envers le Seigneur pour nous avoir envoyé le Saint-Esprit dont nous avons tant besoin. Alléluia. Oui, le Seigneur avait promis la venue du Saint-Esprit. Il avait dit, il avait donné sa parole. Dans Jean 14, verset 17, il a dit à ses disciples, « Moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. » Ou c'est après. Enfin bref, il vous donnera un autre consolateur, un autre paraclétos, un autre défenseur, avocat, aide. C'est un mot très profond, l'esprit de vérité. Alléluia. Et gloire à Dieu. Et d'ajouter, quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il me glorifiera. C'est donc lui qui a parlé du Saint-Esprit. Il connaît l'importance, mes amis, de la personne du Saint-Esprit, de son œuvre en nous, de sa présence parmi nous et autour de nous. Mais au-delà du fait que nous sommes là pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour lui dire merci de nous avoir envoyé le Saint-Esprit, au-delà de cette célébration de la Pentecôte, eh bien nous devons réaliser que ce culte est aussi une opportunité pour chacun de nous de réaliser le bien fondé, de réaliser la nécessité, l'importance ainsi que la pertinence de l'expérience que la parole de Dieu appelle le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une expérience fondamentale. Elle est nécessaire au point où le Seigneur, avant de quitter, il a exprimé sa volonté. Il a demandé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce que le Père accomplisse sa parole. Car leur dit-il, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et gloire au Seigneur. Ce baptême dans le Saint-Esprit est d'une nécessité extraordinaire. Et cette expérience ne doit pas être confondue avec la conversion. Même si dans les deux cas, c'est-à-dire et dans la conversion et dans le baptême du Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit est l'acteur principal, il n'en demeure pas moins que ces expériences sont différentes. Car il y a encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, des confessions de religions dites chrétiennes qui entretiennent la confusion, qui essayent de faire croire aux gens que le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est la conversion. Pas du tout. Les 120 qui se sont retrouvés dans la chambre haute étaient tous convertis, oui ou non? Ce n'étaient pas des païens, mes amis. C'étaient des gens qui avaient cru en Christ. C'étaient des gens qui avaient tout abandonné pour le suivre. Et là, ce jour-là, 10 jours plus tard, dans cette chambre haute, où ils s'étaient retirés par obéissance à la parole du Seigneur, où ils étaient montés avec une attente claire que le Saint-Esprit descende et qu'ils reçoivent cette puissance dont ils avaient tant besoin, eh bien, cette expérience-là est tout à fait différente de la conversion. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une promesse que le Père a faite à son Église et à tous ses enfants en Christ. Ce n'est donc pas une expérience qui serait réservée à une élite au sein du corps du Christ, pas du tout. Tous les disciples, et d'ailleurs nous l'avons lu, au jour de la Pentecôte, tous les 120 ont été baptisés dans le feu. Tous les 120 ont été immergés dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est donc, mes amis, une expérience après laquelle tout disciple du Christ devait et doit languir. Il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de demeurer dans une attente dynamique, active, hein, par rapport à la promesse du Père, à savoir être baptisé dans le Saint-Esprit. Ils sont restés fermes, il ne leur avait pas dit, voilà, retirez-vous dans cette chambre haute, mettez-vous à prier, et au dixième jour, eh bien, la promesse que je viens de vous laisser s'accomplira. Pas du tout. Il leur a dit simplement, restez à Jérusalem. Ne vous précipitez pas de quitter Jérusalem, restez jusqu'à ce que le Père accomplisse sa promesse, celle dont vous m'avez entendu parler. Et il ajoute, car Jean, le baptiste ou le baptiseur, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Mes amis, c'est une expérience importante. Et je crois que l'impotence de l'Église aujourd'hui, le fait que l'Église manque de puissance, le fait que l'Église n'arrive plus à relever tant de défis qui se présentent à elle, est dû au fait que nous avons tous sombré dans une forme de religion ou de religiosité et nous n'avons pas laissé toute la latitude au Saint-Esprit de nous conduire, de nous diriger. Nous en avons besoin. Ils étaient 120. Ils ont été embrasés dans le Saint-Esprit. Et les 120, mes amis, sont arrivés en quelques années à amener l'Évangile jusqu'à Rome. Qu'est-ce qui a fait la différence? Eh bien, c'est parce qu'ils avaient compris que la stratégie de Dieu est une personne, le Saint-Esprit. Le moyen de Dieu est une personne, le Saint-Esprit. Mes amis, la plupart d'entre eux n'avaient jamais été dans des écoles bibliques, et pourtant, ils ont prêché la parole avec puissance. Et pourtant, rien ne les a arrêtés dans leur désir d'accomplir le mandat suprême, c'est-à-dire annoncer l'Évangile un peu partout. Au dixième jour, qui a correspondu donc avec la fête de la Pentecôte, le ciel s'est ouvert, alléluia. Le Seigneur a honoré sa parole. Il a envoyé son Saint-Esprit dans cette chambre haute où ils étaient réunis, où ils étaient en prière. La Bible nous dit qu'ils persévéraient dans la prière et dans la supplication. Le simple fait qu'ils aient reçu la promesse n'a pas suffi. Encore, il fallait prier, il fallait demander avec foi pour que le Seigneur puisse accomplir sa parole. Et puis ce jour-là, tout d'un coup, nous l'avons lu, tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a fini par remplir toute la maison où ils étaient. Et quelque chose qui ressemblait à une boule de feu apparut. Et cette boule de feu se divisa en différentes langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Et la Bible de conclure en disant, ils furent tous remplis et du Saint-Esprit et parlèrent en d'autres langues. Gloire au Seigneur. Ils furent tous baptisés dans le Saint-Esprit. Parmi les 120, il y avait les disciples, les apôtres, eux qui avaient mangé avec le Seigneur et qui avaient été aux pieds du plus grand docteur de l'histoire. Et qui ont eu à avoir des contacts particuliers avec le Seigneur. Malgré cette proximité qu'ils avaient avec le Seigneur, malgré la connaissance qu'ils avaient de la personne du Christ, en dépit, mes amis, de la communion dont ils jouissaient avec le Seigneur, eh bien nous voyons qu'eux aussi ont eu besoin de prier et d'être baptisés dans le Saint-Esprit pour être efficaces dans la moisson. Pour être efficace dans le témoignage. Ils furent revêtus de la puissance d'en haut. Désormais, et tous brûlent du feu de Dieu. Désormais, et tous brûlent pour Dieu. Et personne ne peut arrêter le feu de Dieu. Personne, absolument, même pas l'enfer. Personne ne peut arrêter la lumière et le feu de Dieu. Le monde est plongé dans les ténèbres. Et nous avons la solution. Cette solution, c'est le Seigneur, c'est lui la lumière. Et il le fait par son esprit. Mais dans la plupart des cas, nous essayons d'argumenter avec les ténèbres. Nous pensons qu'en argumentant avec les ténèbres, eh bien, nous finirons par les conquérir. Pas du tout. C'est en brûlant du feu de la Pentecôte. C'est en brillant de la lumière de l'Esprit que nous allons faire reculer les ténèbres. Voyez-vous, quand la Pentecôte est arrivée ici chez nous, on a assisté à des conversions miraculeuses. On a vu l'Église du Christ détruire tout sur son passage. On a vu l'Église du Seigneur, mes amis, eh bien, pénétrer dans pratiquement toutes les couches de la société. On a vu des sorciers, des féticheurs se convertir, des prostituées abandonner leur métier, des gens de tous bords, des gens qui étaient très actifs dans des loges mystiques, quittaient tout ça pour se tourner vers le Seigneur. Et aujourd'hui, où en sommes-nous, mes amis? Voilà pourquoi il est plus qu'indispensable que nous retournions là où tout a commencé, que nous montions dans la chambre haute, et que nous retournions au béaba du pentecôtisme. Gloire à Dieu. L'Église de Jésus est née dans le feu du Saint-Esprit, et ce feu fait partie de son ADN. On ne peut pas concevoir l'Église du Seigneur sans le feu du Saint-Esprit. Or aujourd'hui, comme nous allons le voir, dans cette série d'enseignements sur l'Église de Jésus-Christ, Bethel ou Bethaven, aujourd'hui beaucoup de nos églises ressemblent à des chambres froides. On ne peut pas trouver la vie dans une chambre froide. Vous pouvez trouver du poisson, vous pouvez trouver du poulet, de la viande, quelle que soit la quantité. Mais dans une chambre froide, il y a la mort. Et malheureusement, tel est donc l'état de beaucoup de nos assemblées. À partir de ce moment-là, après le feu de la Pentecôte, eh bien, les disciples du Christ vont devenir de véritables témoins allant partout dans le monde pour prêcher l'Évangile avec des résultats extraordinaires. Lisez, mes amis, le livre des Actes des Apôtres et vous allez voir comment avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, tout devient possible. Ils n'ont pas regardé à leur faiblesse. Ils n'ont pas regardé à leur niveau intellectuel. Ils n'ont pas regardé au fait que, voilà, aller dans un pays étranger, c'était toujours un risque. Pas du tout. Ils avaient les yeux fixés sur celui qui les avait baptisés dans le Saint-Esprit. Ils avaient les yeux fixés sur la mission, sur le mandat suprême. De prêcher, de proclamer l'Évangile. Or, aujourd'hui, on ne fait plus tout cela. Quand on le fait, c'est simplement pour calmer notre conscience. Voyez-vous, beaucoup de choses ont pris la place du Saint-Esprit dans nos églises. Le tribalisme. Le savoir théologique qui exclut la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, tout cela, mes amis, constitue des freins à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu parmi nous et au travers de nous. La nécessité du feu de la Pentecôte dans l'œuvre de Dieu pour être efficace. Personne ne peut s'imaginer quelqu'un envoyer un ouvrier sans lui donner des outils appropriés pour accomplir son travail. Si vous avez un chantier et que vous recrutez des maçons, mais il faudra donner à ces maçons les outils dont ils ont besoin pour pouvoir construire. Vous pouvez leur offrir des ordinateurs, vous pouvez leur donner n'importe quoi, mais ce dont ils ont besoin sur un chantier, c'est d'une truelle, c'est de ceci, c'est d'échafaudage. Voilà ce dont ils ont besoin. Personne ne peut s'imaginer un général envoyer ses soldats au front sans leur donner les armes appropriées. Personne ne peut s'imaginer, mes amis, aller pêcher en haute mer sans prendre ce dont il a besoin, c'est-à-dire le filet, n'est-ce pas? Donc pour chaque tâche, eh bien, il faut des outils appropriés. Il en est de même pour nous. Le Seigneur nous demande d'être des témoins dans ce monde. Il nous demande d'aller, mais en même temps, il nous donne le moyen pour être efficace dans notre témoignage. Le moyen, la stratégie est une personne. Vous, restez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Père accomplisse sa promesse, celle dont vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez alors mes témoins. Voilà la dernière volonté du Seigneur. Et que faisons-nous de cette dernière volonté? Que faisons-nous de ces dernières paroles du Seigneur? Est-ce que nous recherchons cette communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous recherchons ce baptême pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ce baptême? Que faisons-nous? Voilà la grande question que nous devons nous poser. Car le feu reste et demeure la caractéristique du Dieu de la Bible. Là où il agit, là il y a le feu. Oh, alléluia. Là où il agit, là, mes amis, le feu brûle. Et quand le feu brûle, alors la vie descend en abondance. Face aux démons, face à la malédiction, nous avons besoin du feu d'en haut. C'est donc le feu qui singularise, qui particularise le Dieu de la Bible. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, le Dieu de la Bible, celui qui a marché avec Enoch, celui qui s'est révélé à Abraham, celui qui a parlé au travers des prophètes, celui qui a visité le monde, qui s'est révélé, qui se révèle par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, eh bien ce Dieu-là se caractérise, se particularise, se singularise par le feu. Quand il est question de ce Dieu-là, eh bien, il est aussi question de feu. Quand nous parlons de ce Dieu, mes amis, nous devrions être conscients que nous parlons aussi de feu. Voyez-vous, le psalmiste, au psaume 97, verset 3, déclare ceci à propos de Dieu, « Le feu marche devant lui ». Tel un messager du roi, le feu annonce sa venue. À l'époque, quand un roi devait se déplacer, il devait aller quelque part, et même encore aujourd'hui, eh bien, il était précédé par des héros, R-A-U-T, par des héros, des gens qui proclamaient, qui sensibilisaient la population quant à la venue du roi. Donc ça veut dire que ces gens-là précédaient le roi, voyez-vous? Eh bien, pour le Dieu de la Bible, le feu marche devant lui. C'est le feu qui annonce sa venue, oh alléluia! C'est le feu qui annonce que son royaume est là. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'exprime encore avec plus de force. au chapitre 12, verset 29, où il dit « Notre Dieu est un feu dévorant ». Mes amis, prenez besoin de vous rappeler que le Nouveau Testament commence avec le feu. La première chose dite au sujet de Jésus par son premier témoin concerne le feu. Dans Jean 5, 35, Jean-Baptiste, ou Jean le baptiseur, qui était lui-même une lampe qui brûle et qui brille, ou littéralement une lampe brûlante et brillante, eh bien Jean-Baptiste a déclaré ceci à propos du Seigneur. Luc 3, verset 16. « Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut mettre ce passage, s'il vous plaît? J'ai l'impression que ça vibre, hein? J'ai un retour très très fort. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Voilà ce que Jean-Baptiste annonce à propos de Jésus. Voilà ce que Jean-Baptiste proclame concernant le Messie. Il met tout de suite en évidence l'œuvre que le Messie allait accomplir en dehors de l'œuvre du salut. Il dit, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Gloire au Seigneur, alléluia. Donc ça veut dire que Jean le baptiseur, vous pouvez enlever ça, hein? Jean le baptiseur, Jean l'immergeur, car baptiser c'est quoi? C'est plonger, c'est immerger. Eh bien ce Jean-là a présenté Jésus comme étant le baptiseur ou l'immergeur. À la seule différence que lui, Jean-Baptiste, baptisait dans les eaux froides du Jourdain, et que lui, Jésus, baptisait d'Esprit Saint et de feu. Oh, alléluia. L'un se tenait dans les eaux, comme je viens de le souligner, froides, glaciales du Jourdain, mais l'autre se tient dans un fleuve de feu. Gloire au Seigneur. Mes amis, l'œuvre notoire de Jean, Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et d'Élisabeth, son œuvre notoire était le baptême. Il était venu pour préparer la venue du Christ en proclamant un message de repentance et puis en baptisant tous ceux qui se repentaient et qui prenaient la décision de ne plus vivre comme ils vivaient autrefois, c'est-à-dire avant la repentance. Et son œuvre donc notoire était le baptême. Et ce Jean-là va aussi annoncer l'œuvre notoire. Donc, à part le salut, l'œuvre notoire de Jésus comme étant aussi le baptême. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si donc baptisé d'Esprit Saint et de feu est l'œuvre du Seigneur, cela veut dire, cela signifie que tout ce qui a trait à lui, tout ce qui a trait à sa parole, tout ce qui a trait à l'Évangile devrait être caractérisé par le feu. Nous devrions tous brûler. Nous devrions avoir des moments de louange brûlants. Nous devrions avoir une adoration, une louange brûlante. Alléluia. Nos vies devraient brûler au point où quand un démon vient, eh bien, il essaye, il voit que le feu brûle tellement qu'il part. Alléluia. Voyez-vous, quand vous avez chez vous, j'ai déjà utilisé cet exemple, vous avez une cuisinière électrique, vous préparez, je ne sais, de la viande, et puis il y a de la sauce qui tombe là sur la plaque, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, les mouches viennent, non? Maintenant, si vous vous mettez à chasser les mouches, elles vont partir et vont revenir. La seule manière d'empêcher que ces mouches se posent sur la plaque, eh bien, électrique, c'est de mettre la plaque sous électricité. Et la plaque va chauffer. Et le feu, mes amis, va donc chasser les mouches. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser quoi que ce soit pour chasser ces mouches au risque de vous fatiguer. Mais le feu fera le reste. Alléluia. Que nos vues brûlent. Ainsi l'ennemi continuera à rôder comme un lion rugissant, mais aura quelque part peur de nous toucher. Car à chaque fois que ces esprits mauvais, à chaque fois que ces gens animés par toutes sortes de pensées démoniaques mettront leurs mains funestes sur nous, ils brûleront. Alléluia. Il faut que notre présence, mes amis, mette mal à l'aise ceux qui ne sont pas en Christ. Ceux qui ne sont pas avec Jésus. Voyez-vous. Mais dans la plupart des cas, que nous soyons là ou que nous ne soyons là, ne nous soyons pas là, nos collègues se sentent toujours à l'aise. Ils parlent des insanités, des grossièretés. Ils sont là, ils vivent dans toutes sortes de péchés. Et quand nous sommes là, quelquefois, nous nous sentons tellement petits, nous n'osons même pas parler. C'est la preuve que nous avons une petite flamme qui ne peut pas, mes amis, mettre mal à l'aise l'ennemi autour de nous. Cherchons le feu et nous verrons le résultat. Gloire au Seigneur. Tout ce qui touche au Seigneur, puisque baptisé de feu et d'Esprit Saint fait partie de son œuvre, eh bien tout ce qui concerne le Seigneur devait flamber. Voyez, devait brûler, devait être flamboyant. Si cela veut dire qu'il devrait y avoir du feu chez ceux qui témoignent, du feu chez ceux qui œuvrent pour lui et avec lui. Le feu dans ceux qui prêchent. Aujourd'hui, c'est des fables que les gens racontent derrière la chair. Voilà, il y a des prédicateurs qui ne se préparent même plus. Voyez, on a lu quelque chose sur Internet et puis on reproduit ça comme un perroquet. Voilà. Et surtout, alors, on raconte des histoires, et puis les gens sont là à rigoler. Et puis on raconte encore des histoires, alors les gens sont contents, ils acclament et tout ça, et puis ça s'arrête là. Résultat, les gens restent ce qu'ils sont, pire. Ils deviennent encore pire qu'avant. Car si vous n'avancez pas, sachez que vous reculez. Et la seule manière d'avancer, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas tous ces péchés desquels vous êtes esclaves. Vous voyez, mes amis, nous avons besoin du feu de l'Esprit. Ceux qui prêchent la vérité doivent être possédés par le feu. Le Seigneur ne dit-il pas par la bouche de son serviteur Jérémie, chapitre 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ? Elle doit brûler en nous pour consumer le péché, pour consumer tous ces instincts pervertis de la chair. Ce feu doit brûler dans chacun de nous. » Mais malheureusement, avec le temps, eh bien, l'Église du Christ est de plus en plus distraite. Avec le temps, l'Église du Christ, eh bien, c'est détourner de la priorité, qui est donc celle d'être mû, d'être conduite par le Saint-Esprit, celle d'être embrasé par le Saint-Esprit. Ainsi, les gens viennent dans nos églises, entendent toutes sortes de prédications, mais personne ne rentre chez lui enflammé. On vient comme on est, on repart comme on était. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de feu parmi nous. Parce que dans l'Église, le feu n'est plus ce qu'il aurait dû être. Quand on parlait autrefois des églises de Pentecôte, eh bien, on parlait des églises bouillonnantes, alléluia. Des églises flamboyantes, des églises inflammables, des églises qui avançaient avec le feu. Et partout où ces églises passaient, elles laissaient des traces. Car si vous mettez le feu à une forêt ou à la savane, vous n'aurez pas besoin qu'on vous démontre que le feu passait par ici. Partout où le feu passe, il laisse des traces. Alléluia. Les arbres sont calcinés. L'herbe est consumée. Voyez-vous, tout brûle lorsque le feu passe. Mais aujourd'hui, quand nous passons, laissons-nous derrière nous des traces. Beaucoup d'églises, comme je l'ai dit, sont devenus, hélas, de chambres froides, des lieux de congélation spirituelle. Mes amis, nos églises doivent être et doivent redevenir de véritables chambres hautes, lieux où brûle le feu et où brille la lumière du Christ. Au point où tous ceux qui viendront, eh bien, sentiront qu'il y a quelque chose. Quand je parle de feu, je ne parle pas d'une musique très très forte, pas du tout. Le feu peut être là alors que les gens sont en silence et prient par le Saint-Esprit en silence. Le feu peut être là aussi quand il y a le bruit, etc. Le but, ce n'est pas tant le nombre de décibels, c'est la qualité de nos cœurs. Oh, alléluia! On peut bouger en étant mu par le Saint-Esprit. On peut sauter parce qu'il y a un feu qui brûle en nous, que nous ne pouvons pas contenir. Mais aussi, on peut sauter dans la chair. Oui ou non? Il est là, mais on a des casseroles qu'on traîne. Des casseroles remplies d'immoralité, de corruption, de cupidité, de mensonges et de tromperies. Mais dès que la musique se met à jouer et c'est fini, le Seigneur est là. On peut parler en langue, mais une langue de la chair. Voyons. Ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui est visible. Nous aimons l'apparence. Voyez-vous. Et aujourd'hui, j'ai appris, maintenant je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a des gens qui imitent les pasteurs. Il y a même des gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, qui ont appris qu'ils peuvent se faire de l'argent en proclamant des prophéties. Elle dit, non, je fais comme le pasteur là. Lui aussi devient prophète. Il n'a jamais rencontré le Seigneur. Et donc, par mimétisme, voyez-vous. Donc nous devons faire très attention. Parce que chez nous, nous nous laissons facilement voir par l'apparence. Voyez-vous, nous regardons l'apparence, oh là 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 là, cet homme est très zélé, cette femme c'est formidable. Alors qu'en réalité, c'est simplement la chair qui s'excite. Voyez. On peut être rempli du Saint-Esprit et se tromper sur le jugement. Quant à la nature de quelqu'un, morale ou spirituelle, rappelez-vous Samuel. Samuel, l'homme de Dieu. Samuel, le prophète. Quand le Seigneur lui demande d'aller chez Isaïe, parce qu'il venait de voir un roi pour lui, et d'aller donner l'onction à ce roi-là, il est parti. Il a fait venir la famille d'Isaïe. Il a demandé à ce que Isaïe amène tous ses enfants. Et puis les enfants d'Isaïe étaient là. Le nez passe, grand comme un eucalyptus. Un vrai baobab, Eliab, c'est ça, hein? Eh oui, le prophète regarde, ça c'est l'élu du Seigneur. Enfin, ça ne me prendra pas beaucoup de temps parce que c'est vraiment lui. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? C'est pas lui. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est là que nous devons faire attention. On est quelque part, il y a la musique et tout ça, il y a sécrétion de dopamine ou d'adrénaline dans la tête des gens et les gens se mettent à bouger dans tous les sens, se mettent à parler dans des langues incompréhensibles. On dit, oh là là, le Saint-Esprit est là. Non, ça peut être des délires. Ça peut être des délires. Cette espèce de logorée. Voilà, parce qu'on est tellement agité. Vous avez déjà vu dans les concerts, surtout avec les jeunes filles, la musique, vous voyez tout le monde, des jeunes filles qui crient. Vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu? Pendant que commence les gens du monde joue. Attention, mes amis. Sachons faire preuve de sagesse, de discernement. Ne nous laissons pas distraire par l'extérieur, par l'allure, par l'apparence. Mais que le Seigneur nous amène au-delà, car le feu, nous en avons besoin aujourd'hui, alléluia. Le feu dans chacun de nous, le feu dans tous ceux qui œuvrent dans l'œuvre de Dieu, dans le feu, dans les prédicateurs, chaque disciple du Christ, comme les 120, doit être embrasé par le feu, car nous sommes appelés à être des témoins. Et pour que nous soyons efficaces dans notre témoignage, mes amis, il faut que nous soyons embrasés par le feu de l'Esprit. C'est le feu qui convainc, plutôt le Saint-Esprit qui convainc de justice et de péché. Ne regardons pas nos limites intellectuelles. Ne disons pas, oh là là, mon professeur là est très intelligent. Je ne sais pas par où commencer pour lui apporter le message de l'Évangile. Ce n'est pas ton problème. Jésus a dit, va et prêche ma parole. Celui qui va faire le reste, voyez-vous, parle-lui simplement de Jésus qu'il aime, de Jésus qui peut changer, transformer sa vie. Regardez les deux disciples d'Emmaüs dans Luc 24, vous connaissez l'histoire. Après avoir écouté le Seigneur, le docteur par excellence, mes amis, eh bien, ils sont rentrés chez eux avec des cœurs enflammés, des cœurs embrasés. Au verset 32 de Luc 24, écoutez leur réaction après avoir été exposés à la prédication, à l'enseignement du Seigneur. Ils disent ceci, ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs, notre cœur, ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, littéralement, lorsqu'il ouvrait les Écritures pour nous? Il a ouvert les Écritures. La vie et le feu ont jailli et ont embrasé leur cœur. Mes amis, avant de terminer, parler de la Pentecôte, c'est parler du feu, parler de feu. Et il est le seul qui baptise de feu, mais aussi le seul qui répond par le feu. Rappelez-vous du prophète Élie au Mont Carmel, face à tous ces prophètes de Baal. Le prophète a lancé un défi aux faux prophètes. Il leur a dit ceci, « Invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le nom de Yahweh. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. » Oh, alléluia! Eh bien, un seul a fait cela. Un seul a répondu par le feu. Notre Dieu, le Dieu d'Israël. Oh, alléluia! Il y a donc aujourd'hui dans nos assemblées des choses, des pratiques, des enseignements, des doctrines qui paralysent, qui liquéfient la foi des gens et qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit ni avec le feu. Voyez-vous, nous avons besoin de feu. Et ce matin, il veut nous embraser. Et ce matin, il veut nous enflammer. Alléluia. Nous devons chercher le feu de la Pentecôte, non seulement en période de Pentecôte, mais si nous n'avons jamais expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, mettons-nous à le rechercher avec foi, avec confiance, car il a promis qu'il accomplirait cette promesse. Demandez avec foi une promesse. Alors, je vais vous demander, demandez à chacun de nous de se mettre debout et nous allons nous tourner vers le Seigneur. Le Dieu qui se révèle par le feu, et nous allons invoquer son nom. Oh, alléluia. Nous allons prier que chacun demande au Seigneur de l'embraser. Le feu rein, c'est la solution aux passions de la chair. Le feu de l'Esprit, eh bien, est un feu qui nous est pur, qui nous débarrasse de toutes sortes de scories, d'impuretés. Le feu de l'Esprit est le seul qui puisse, mes amis, détruire, brûler, la lie sur laquelle nous nous reposons, comme nous en avons parlé pendant longtemps, le feu de l'Esprit. Nous allons lever les mains et chacun va prier, va dire, Seigneur, ce matin je voudrais monter dans la chambre haute. Ce matin, Seigneur, je me tiens devant toi. Ce matin, je demande à ce que par ton esprit, tu m'embrases. Ce matin, je demande pour que par ton esprit, tu brûles en moi l'incrédulité, tu brûles en moi l'immoralité, tu brûles en moi ces pensées impures qui intoxiquent mon existence, qui m'empêchent de me concentrer sur toi. Et que ceux qui n'ont jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, puissent demander, qui dit, Seigneur, mais voici, ce baptême est aussi pour moi, et je le demande maintenant, plonge-moi dans ton esprit, embrase-moi de ton feu, plonge-moi dans le feu de ton esprit, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci pour tout, merci Seigneur. Gloire à toi. Seigneur, nous voici devant toi. Ô Dieu, après avoir entendu ce message, nous réalisons combien nous avons besoin de toi, combien nous avons besoin de ton esprit, combien, Seigneur, ô Dieu, nous avons besoin d'être embrasés, d'être enflammés par le feu d'en haut. Seigneur, combien nous avons besoin d'être revêtus de ta puissance pour être efficaces dans notre témoignage, pour être des lampes qui brûlent, mais aussi des lampes qui brillent dans ce monde des ténèbres. Alors, embrase-nous. Alors, Seigneur, embrase-nous de ton feu, de ta flamme. Au nom de Jésus. Et baptise ceux qui n'ont jamais fait cette expérience. Plonge-les dans le fleuve, Seigneur, de ton esprit. Dans le fleuve de feu. Oh, alléluia. Gloire. Gloire. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci pour cette promesse que tu nous as faite. Elle a été faite aux premiers disciples. Elle est aussi faite, Seigneur, à tous tes disciples à travers les âges. Tu es encore le même aujourd'hui. Tu te tiens dans ton fleuve de feu pour baptiser tous ceux qui ont foi en toi, tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui croient que cette promesse est pour eux. Et je prie pour que tu accomplisses cette promesse dans le cœur, dans la vie de tous ceux qui n'ont jamais été baptisés dans le Saint-Esprit. Que ton esprit se manifeste maintenant, au nom de Jésus-Christ, par des parler en langue qui viennent d'en haut, pas simulés. Oh, alléluia. Merci pour tout. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, alléluia, merveilleux sauveur, bénis cette parole dans chacun de nous. Donne-nous d'être des témoins efficaces, des témoins dignes de toi, embrasés par ton feu, par ta flamme, par le feu de ton autel divin. Oh, alléluia, oh, merci. Merci Jésus. Merci Maître. Merci pour tout. Rababa yakarachika baya konkosoko robatanda. Dimbara kankachika baya sokotoka yakabara sanda. Oh, alléluia. Louons le Seigneur, ne nous laissons pas distraire. Adore, continuons à louer, à invoquer le nom du Seigneur. Où que nous soyons, oh, demandons-lui de nous restaurer. Par son esprit, demandons-lui de nous embraser, de nous transformer, que le feu brûle dans notre âme, que son feu brûle dans notre esprit, que son feu brûle et brûle encore dans notre corps, afin que nous puissions mener une vie qui le glorifie. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons rester fidèles à toi. Nous voulons rester attentifs à ta parole. Nous voulons nous laisser conduire par ton Saint-Esprit. Oh Dieu, rallume le feu dans nos cœurs. Attise le feu en nous. Oh, alléluia. Jésus, Jésus.